Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, éclairage aujourd'hui sur les toponymes. Les toponymes, c'est peut-être un nom un peu curieux. Toponyme, ça veut dire tout simplement nom de lieu. Eh bien, figurez-vous qu'il existe une commission en France chargée de s'occuper des noms de lieux, des toponymes, la Commission nationale de toponymie. Et à travers ce que fait cette commission, eh bien, c'est en fait une lecture de l'histoire, une lecture de l'actualité, de la géopolitique, puisque les noms, la langue, représentent des enjeux. Et comme tout enjeu, évidemment, ils méritent d'être défendus. Et ils sont l'objet d'âpres rivalités. Alors avec Pierre Jaillard, comme président de la Commission nationale de toponymie, bonjour Pierre Jaillard.
Bonjour.
Alors la Commission nationale de toponymie, Pierre Jaillard, c'est d'abord une commission consultative qui dépend du ministère de l'Équipement. Elle n'est pas sous les auspices du Quai d'Orsay, donc ce n'est pas un outil diplomatique, c'est d'abord un outil technique.
Absolument, mais ce rattachement est lui-même un acte diplomatique. Je m'explique, c'est que traiter les toponymes d'une façon technique et avec des procédures et avec une commission qui est largement interministérielle, dans laquelle sont représentés de nombreux ministères, pas le Quai d'Orsay pour l'instant d'ailleurs, mais ça pourrait évoluer prochainement. C'est aussi une façon de dépassionner les débats, de les aborder sur un plan technique et donc de vider le contenu conflictuel dont bien souvent ils sont chargés.
Donc c'est passionnel, hein, c'est vous qui le dites.
C'est passionnel et c'est passionnant aussi, par ce fait même. Mais il est vrai qu'il ne faut pas hésiter à être réactif dans cette activité lorsque l'actualité met sur le devant de la scène tel ou tel pays, tel ou tel lieu. Très souvent, le choix qui est fait par les médias, de la façon dont ils sont nommés, entraîne par lui-même des choix politiques.
Je vous donne tout de suite un exemple. Vous allez me dire, ça me vient à l'esprit, si ça entre dans le cadre de travaux que la Commission nationale de toponymie pourrait devoir traiter. Quand on dit territoire palestinien ou territoire occupé, est-ce que vous faites un choix ?
Alors oui, nous avons fait un choix et ce sont les territoires palestiniens qui sont la terminologie officielle pour désigner les zones de la Terre Sainte qui n'appartiennent pas à Israël en vertu d'un droit international reconnu.
Terre Sainte, c'est déjà une option.
Oui, c'est une option, c'est vrai, mais c'est la plus neutre possible vis-à-vis des questions israélo-palestiniennes. Et donc c'est pour ça qu'après avoir un peu hésité, c'est celle-là que j'emploie pour désigner cet ensemble que forment Israël et les territoires palestiniens. Mais il est vrai que pour Israël, la question ne se pose pas. L'ensemble fait partie du grand Israël. Et pour les Palestiniens, pendant longtemps, il était clair que c'était la Palestine dans son ensemble, y compris sur le territoire d'Israël.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un malentendu quand on dit Palestiniens et Juifs ou Israéliens, puisqu'ils sont tous Palestiniens en soi? Vous avez des Palestiniens arabes et des Palestiniens juifs. Est-ce que réserver le terme de Palestinien n'est pas en soi aux Arabes, donc, n'est pas en soi déjà peut-être une erreur, un prisme ?
Alors, moi, je ne place pas la frontière à cet endroit-là. Le terme palestinien, habituellement, décrit le peuple palestinien, ce qu'on appelle le peuple palestinien, c'est-à-dire, est-ce que c'est un peuple au sens ethnique ? Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Mais ce qu'on appelle habituellement le peuple palestinien, c'est l'ensemble des habitants de ce territoire qui étaient là avant la création de l'État d'Israël en 1947.
Donc, c'est très précis comme définition.
C'est assez précis et ça recouvre des gens qui étaient musulmans, bien sûr, mais aussi plus anciennement chrétiens et même déjà juifs, puisque un certain nombre de juifs étaient revenus en Terre Sainte depuis déjà la fin du 19e siècle, soutenu notamment par les Rothschild. Et donc c'est cet ensemble-là qu'on pourrait appeler les Palestiniens. Et en effet, parmi les Palestiniens, la plupart sont arabes. Et parmi les Palestiniens arabes, la très grande majorité sont musulmans, mais il y a une forte minorité chrétienne. Et à l'inverse, parmi les Israéliens, qui ne sont pas les Juifs, parmi les Israéliens, c'est-à-dire les citoyens de l'État d'Israël, figurent des Arabes, qui sont donc Palestiniens.
1,5 million, à peu près.
Soit chrétiens, soit musulmans. Effectivement, ils sont minoritaires, mais c'est une forte minorité bien présente dans l'État d'Israël.
Avec un toponyme comme « Grand Israël », qu'est-ce qu'on en fait de ce toponyme ? Alors, il n'a pas de caractère officiel.
Oui, Grand Israël, nous ne le considérons pas comme un toponyme. C'est plutôt un slogan politique. Ça n'est pas un toponyme au sens où il n'est pas reconnu par la communauté des géographes ou par celle des linguistes, qui sont les deux grands groupes qui s'intéressent à la toponymie, comme désignant un territoire clairement identifié. C'est une revendication. Donc, on ne peut pas en faire un toponyme au sens propre.
Pourtant, tout dépend du côté duquel on se place, puisque certains vous diront sans doute, avec force argumentation, que ça correspond à des territoires, à une géographie. Alors, Pierre Jaillard, on prend cet exemple-là, on a commencé par les territoires palestiniens, mais quand un nom de lieu devient-il justement un toponyme ? Qu'est-ce qui fait la frontière ? C'est la revendication, là, en l'espèce ? C'est quand on est trop dans la politique que ça devient, qu'on est exclu du champ de la toponymie ?
La définition du toponyme est une question qui n'est pas complètement tranchée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les toponymistes... Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les toponymistes ? D'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que quand les toponymistes s'intéressent à un nom de lieu, c'est qu'ils ont déjà considéré que le territoire qu'ils représentent ou le lieu qu'ils représentent est précisément défini. Et donc, ça évite en effet les questions de revendication sur l'extension de tel ou tel territoire. Un exemple dans la même zone, le Proche-Orient ou le Moyen-Orient ont aujourd'hui des définitions géographiques différentes. Alors, ils ont des origines linguistiques et culturelles différentes. Le Moyen-Orient, c'est une appellation d'origine américaine et qui avait une extension différente dans l'esprit américain. Et puis, il a été inclus dans la culture française, francophone en tout cas, mais française aussi, et avec un territoire qui est défini, qui est plus large que le Proche-Orient, qui englobe le Proche-Orient, mais va plus loin du côté de l'Afghanistan.
Est-ce qu'autrefois, justement, c'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire que Proche-Orient dans l'esprit français, jusqu'à une période peut-être assez récente, le Proche-Orient correspondait au Moyen-Orient, ou pas ?
Oui, absolument.
L'Iran faisait partie du Proche-Orient pour les Français ?
Mes prédécesseurs, à l'époque où la CNT, la Commission nationale de toponymie, n'avait pas encore été créée, mes prédécesseurs auraient pu dire à ce moment-là, n'employez pas Moyen-Orient, qui est le mot anglais, qui est un anglicisme, employez Proche-Orient, ça veut dire la même chose. Et puis aujourd'hui, ça ne veut plus dire la même chose. Même en français, on a accepté les deux termes avec des vocations différentes. On peut dire la même chose pour les Antilles et les Caraïbes. Ce n'est pas exactement le même domaine géographique qui est désigné.
Alors, ce glissement de Proche vers Moyen-Orient, ça a été la conséquence d'une évolution de l'usage assez naturelle, ou bien là, c'est la diplomatie qui s'est imposée ? C'est un ordre venu d'en haut ou venu de spécialistes ?
Non, là, c'est plutôt un usage, mais un usage terminologique. C'est-à-dire que les géopoliticiens ont trouvé commode de pouvoir désigner, de pouvoir utiliser ces deux mots qui figuraient dans l'usage courant, pour désigner des entités précisément définies, différentes. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans le français en général, d'ailleurs. Les terminologues, puisque j'appartiens aussi à une commission de terminologie et de néologie, utilisent assez volontiers des mots différents qui existent déjà dans le vocabulaire, dans le lexique, pour en faire des définitions précises. Et c'est là qu'on entre vraiment dans le domaine de la terminologie.
Alors, Pierre Jaillard, on va prendre un certain nombre de noms de toponymes plus ou moins connus, sur lesquels vous avez été amené à statuer pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'il faut peut-être préciser d'ores et déjà, c'est de savoir, une fois que vous avez rendu une décision, quelle est l'évolution du nom ? Quel parcours suit-il pour que telle ou telle forme advienne ou telle autre forme soit sortie du champ officiel ?
La Commission nationale de toponymie est en fait à l'interface de nombreuses commissions administratives qui ont trait à la toponymie, dont, à vrai dire, aucune n'a de vrai pouvoir de décision, à proprement parler, mais certaines ont des pouvoirs d'avis qui sont généralement suivis. Je pense, par exemple, à la commission du ministère de l'Intérieur dite de révision du nom des communes. Cette commission émet un avis sur tous les changements de nom des communes, départements et régions. Et pour, en tout cas, les communes et les départements, cet avis est souvent suivi. Généralement suivi pour les communes, souvent pour les départements. Notre commission, vis-à-vis de ces commissions spécialisées, intervient plutôt comme une sorte d'académie grammaticale qui cherche à recueillir les usages, à formaliser ce qu'est le bon usage parmi les usages recensés et à les proposer comme règle à ceux qui officialisent effectivement les noms, donc les commissions. Et puis ensuite, la décision appartient en général à un acte officiel comme un décret en Conseil d'État.
Mais c'est le Premier ministre qui décide ?
Alors, la difficulté là est d'ordre juridique. Elle est de savoir si dans un décret en Conseil d'État, c'est vraiment le Premier ministre qui décide. C'est lui qui signe.
C'est lui qui signe, voilà. En tout cas. Et ça veut dire ensuite, donc que tous les actes administratifs, après, vont tenir compte du changement de nom.
Absolument. Théoriquement, tous les actes doivent tenir compte du changement de nom. Il y a parfois des retours en arrière, il y a parfois des réticences.
Par exemple, retour en arrière,
il y a 2 ans, un conseil municipal a été dissous par décret donc. La commune s'appelle Le Fouillou et le décret portait comme titre « Dissolution du conseil municipal de Le Fouillou ». Or, l'article d'un toponyme, même s'il est intégré dans le nom officiel, se soude à la préposition qu'il précède. Et donc, nous avons à cette occasion rappelé au journal officiel et au service du Premier ministre qu'il fallait dire le conseil municipal du Fouillou. C'est un rappel qu'on peut faire plus largement parce que on voit de plus en plus, d'ailleurs, de maires, souvent, de ces communes. Il y en a environ 850 hein, de communes qui ont un article comme ça susceptible d'être fusionné.
Le Mans, par exemple.
Le Mans. Et d'ailleurs, pour Le Mans, voilà un exemple où on voit la SNCF, ou plutôt on entend la SNCF annoncer en train « Vous arrivez en gare de Le Mans », ce qui est particulièrement choquant pour quelqu'un comme moi. J'espère pour vous aussi.
Et là, il y a une voie de recours.
Alors, sur ce point précis, c'est mon prédécesseur qui a écrit à la SNCF, laquelle a expliqué qu'il s'agissait d'être compris par les étrangers. Alors, si la SNCF veut annoncer Le Mans, 5 minutes d'arrêt, comme elle le faisait autrefois, elle sera encore mieux comprise par les étrangers.
Mais on voit qu'en tout cas, c'est l'objet de... Ce n'est pas anodin, hein, le fait de passer d'un article à un article défini contracté, Il y a un enjeu, mais lequel, en fait ? À part le respect de l'usage et le respect de la physionomie du mot.
Pour ce cas précis, c'est vrai que l'enjeu est plutôt faible quand même. Il est en fait dans l'histoire du nom. Parce que cet article, alors ce n'est pas le cas pour Le Mans, pour lequel l'article est une reconstitution erronée d'un article à partir d'une syllabe qui, en fait, ne l'était pas à l'origine. Mais pour d'autres communes, je pense par exemple au Matel. Et les Matel, c'est une commune de l'Hérault. Le terme Mata, en langue d'Ossien, signifie le buisson. Les Matel, c'est donc la commune remplie de petits buissons.
Ça s'écrit les plus loin, Matel, M-A-T-E-L.
Absolument, absolument. Et donc là, le fait de garder l'article et de lui garder sa syntaxe d'article, y compris la fusion avec la préposition précédente, c'est aussi une façon de rappeler quelle est l'origine réelle du mot, que ça n'est pas un nom propre qui s'est figé d'un coup comme ça, mais que c'est un nom propre qui est issu d'un nom régional, local, du lexique courant.
Alors Pierre Jaillard, est-ce que l'on peut... Je ne sais pas si on va prendre des noms comme ça. Est-ce que les enjeux sont les mêmes en France et à l'étranger? Parce que j'imagine que peut-être qu'il y a toute une procédure à respecter vis-à-vis de l'ONU aussi, hein, de l'appellation correcte des noms, la façon dont on se présente, la façon dont on est accepté pour les noms de pays en tout cas. Est-ce qu'en France, il y a plus de cas en France ou à l'étranger d'ailleurs? Ce que vous traitez à peu près?
Ce que nous traitons, nous, repose sur une base évidemment beaucoup plus large en France qu'à l'étranger, au sens où nous avons une compétence directe pour la France. Nous avons été créés pour traiter les noms géographiques en français. Parmi eux, bien sûr, d'abord les noms de la France. Cela étant, à l'étranger, il y a aussi beaucoup de cas, mais des cas très différents. Parce qu'en France, il y a au moins une chose qui est relativement claire, c'est qu'il y a une seule langue officielle, qui est le français. Il y a des langues régionales, elles ont un statut qui vient d'être rehaussé dans la Constitution avec l'article 75.1 qui vient d'être créé. Mais ces langues régionales sont reconnues comme un patrimoine par la Constitution, elles ne sont pas reconnues comme langue officielle. Donc les choses sont claires, l'officialisation se fait en français. Et puis ensuite, il y a, et nous sommes en train de travailler avec les Basques en particulier, sur cette question-là, il y a des façons de valoriser les langues régionales, et notamment dans la toponymie. À l'étranger, il y a de nombreux pays où il y a plusieurs langues officielles. À nos portes, en Belgique, il y en a deux, voire trois, avec l'allemand, qui est langue officielle dans une petite zone. En Suisse, il y en a davantage. On pense au Canada, nous avons une coopération étroite avec le Québec, qui est dans une situation de bilinguisme, en tout cas au niveau de l'État dans son ensemble. Et puis, il y a des pays où il y a beaucoup plus de langues officielles. En Afrique du Sud, il y a une vingtaine de langues officielles.
Donc, vous avez essentiellement à traiter des cas français pour ce qui concerne le territoire français, mais vous avez à vous prononcer. Quand vous vous prononcez sur un nom, un toponyme suisse, belge ou canadien, c'est à quel titre ?
Alors, je vais peut-être distinguer ce qu'on fait sur l'étranger en général et ce qu'on fait sur l'étranger francophone en particulier. Sur l'étranger non francophone, nous intervenons tout simplement parce que notre compétence porte sur le français et non pas sur la France. Et donc la France est parfaitement légitime à parler de la Chine, actuellement de tel territoire de Somalie qu'on appelle le Punt, ou le pays du Punt. Donc le discours tenu sur un lieu géographique n'est pas forcément le privilège des habitants de ce pays ou des gens qui parlent la langue qui est parlée dans ce pays. Voilà. Et donc, il est nécessaire que nous ayons notre avis, que nous le donnions quand on nous le demande, en tout cas, et donc qu'on l'ait de tout près.
Ce qui est une forme de pouvoir qu'on s'attribue, quand même.
Alors c'est un point très, très délicat, effectivement. C'est vrai qu'on voit bien dans la Bible, par exemple, il y a une tradition forte de nomination. Nommer quelque chose, c'est en prendre possession, en prendre pouvoir. Dans la Bible, c'est parfaitement clair. Aujourd'hui, dans l'univers international, c'est quand même pas tout à fait le cas. Il y a 6 langues officielles aux Nations Unies. Quand un Népalais parle d'une zone d'Afrique, il peut le faire en népalais, il peut le faire en français, il peut le faire en anglais ou dans une autre des 6 langues officielles des Nations Unies. Ce n'est pas pour ça qu'il prend possession du territoire africain en question.
C'est une façon de reconnaître l'autre.
Et d'une certaine façon, il le reconnaît. Et à vrai dire, plus l'internationalisation, la mondialisation dont on parle tant et qui est un fait, plus elle progressera, plus il y aura de cas où on aura à parler d'un pays dans une langue qui n'est pas parlée dans ce pays-là. Et forcément, vu les différences de langues qu'il y a entre les quelques 6000 langues qui existent sur la Terre, il est impossible de toujours utiliser le nom local pour parler d'un lieu étranger. Donc forcément, il y aura des déformations et donc des noms spécifiques.
Pierre Jaillard, ça veut dire que l'anglais ne suffit pas, ou en tout cas qu'on ne se satisfait pas de la seule utilisation de l'anglais. Puisque si le Népalais veut nommer un territoire africain, il pourrait se référer juste à cette forme d'espéranto qu'est l'anglais.
Alors, vous venez de lâcher un mot qui dit clairement les choses, c'est que l'anglais, effectivement, ne doit pas être considéré comme la langue vernaculaire, la lingua franca du monde entier. C'est en tout cas une politique constante de la France. Donc nous nous installons complètement dans cette politique-là. La diversité linguistique est un élément essentiel de la diversité culturelle. L'UNESCO l'a réaffirmé en 2005, récemment, en préambule d'une convention. La diversité linguistique est un élément essentiel de la diversité culturelle.
Le Punt, justement, est-ce qu'on peut en parler? C'est le nom, l'un des toponymes que vous avez évoqué à l'instant. Donc c'est en Somalie, c'est un territoire sur lequel vous êtes prononcé, c'était en avril 2009. De quoi s'agit-il?
Le Punt, c'est en fait 2 territoires différents, historiquement. Différents ou pas, d'ailleurs. Mais 2 territoires qui ont leurs références historiques différentes. Le premier, il remonte à une dynastie égyptienne, d'ailleurs, il y a quelque temps déjà. Et Hatshepsut, la pharaone qui a fait construire ce temple extraordinaire à Louxor, qui épouse le site d'une façon qu'on n'a jamais reproduit nulle part ailleurs. Hatshepsut avait en tout cas établi des relations étroites avec le Punt, directes, puisqu'il y avait des relations commerciales indirectes précédemment. Et le Punt, tel qu'il était à l'époque défini, correspond probablement à peu près à ce qu'on appelle le Punt aujourd'hui, et qui est un territoire dont on peut parler peut-être plus facilement, qui est la Corne de l'Afrique, l'extrême de la Corne de l'Afrique, le territoire autour duquel se fait tant de piraterie actuellement, qui englobe donc l'est de la Somalie. Alors le Punt aujourd'hui est appelé Puntland dans les médias, mais c'est le nom anglais.
Donc P-U-N-T.
P-U-N-T-L-A-N-D. Mais il faut savoir qu'en Somalie, il y a 2 langues officielles et pas l'anglais. Et je le regrette peut-être pour les Anglais, mais c'est ainsi. Il y a le Somali, dans lequel le nom est certainement inspiré de l'anglais puisqu'il s'appelle Puntland avec 2 A. Donc la même chose, P-U-N-T-L-2-A-N-D. Et il y a peu de probabilité que ce soit d'une origine différente qu'anglais, ce mot « l'Inde ». Et en arabe, c'est le Ard el-Bunt, qui est donc la traduction arabe, où on retrouve la même racine « bunt » pour le « punt » et « arbre », qui est le nom arabe du pays. C'est intéressant d'ailleurs, d'un autre point de vue, c'est que ça montre que dans un nom de lieu, très souvent, il y a une partie qui est générique et qui est soumise à la traduction. Quand on a Cape Town, la ville du Cap en anglais, le mot town qui est habituellement associé au nom de ville en anglais, en français, on ne dit pas la ville du Mans, en général, on dit le Mans. Et donc, quand on traduit le Cap en français, il faut laisser tomber cette partie générique. De la même façon, pour le Punt, il y a la traduction, ce serait le pays du Punt, la traduction littérale, mais habituellement, on dit le Punt, on ne dit pas le pays d'Auge.
On pourrait dire le pays d'Auge, remarquez.
Le pays d'Auge. Pour une autre raison, c'est qu'on ne dit pas l'Auge, oui. ça prête à confusion. Voilà. Mais on dit en revanche le Pays Basque aussi pour une autre raison, c'est que ça sert de support à un adjectif ethnique.
On voit que les raisons sont parfois ténues, en tout cas extrêmement diverses, hein, puisqu'entre le Pays Basque et le Pays d'Auge, ce n'est pas la même chose. Donc
absolument.
Ça se ressemble, ouais. Mais ça n'est pas du tout pareil. Ouais. Donc le Punt, version française, c'est P-O-U-N-T.
P-O-U-N-T, absolument. On a trouvé parfois P-U-N-T, mais c'est vraiment des cas, des cas rares. Donc nous avons choisi, nous avons tranché pour P-O-U-N-T, pour les deux entités géographiques. Le fait que l'identité entre les deux ne soit pas certaine ne change pas le fait qu'on puisse employer le même nom.
Alors, est-ce que c'est l'actualité, Pierre Jaillard, qui vous a amené à vous prononcer sur ce nom, sur cette région du monde en tout cas?
Tout à fait, c'est le fait qu'on voyait dans les médias parler de cette région très souvent et toujours sous l'appellation Puntland, qui a fait réagir un des membres de la commission et par une procédure d'urgence que nous avons créée il y a un an à peu près, nous avons pris une position donc par consultation électronique. Vous voyez, on a des procédures modernes et pas très chères. Et effectivement, en 10 jours, on a pu prendre position sur ce nom.
Ce qui signifie que les services de l'État peuvent être réactifs, efficaces.
J'espère que vous n'en doutiez pas.
Voilà. Ça a été l'objet de délibérations un petit peu conflictuelles, justement. Est-ce qu'il y a eu d'autres noms qui ont été proposés?
Ce cas précis, non. Ce cas précis a été très, très simple. Il faut dire que c'est la deuxième fois que nous mettions en œuvre cette procédure d'urgence. Et donc, on avait rodé un peu la façon dont il faut présenter une argumentation pour que la décision puisse être prise rapidement. Le cas précédent, ça avait été les rochers du Liancourt. Qui sont
dont on devait parler justement.
Voilà,
c'est très bien.
Qui sont un territoire.
Alors rien à voir comme situation géographique.
Absolument rien à voir et il n'y a pas de piraterie non plus autour. Il y a des conflits, y compris de pêcherie, mais sans piraterie. Il s'agit d'un territoire minuscule, 19 hectares, qui se trouve perdu entre la Corée et le Japon. Dans une mer qu'elle-même j'hésite à dénommer puisque son nom est très vivement débattu. Il s'agit de la mer du Japon ou mer de l'Est pour certains. Si vous voulez, on parlera aussi de cette difficulté. Et les rochers du Liancourt sont appelés par les Coréens les Dokdo, ce qui veut dire île isolée, et par les Japonais les Takeshima, ce qui veut dire les îles du bambou. Et alors nous, Français, nous les appelons les rochers du Liancourt. Nous ne sommes pas les seuls. De nombreux pays d'Occident ont choisi un nom qui utilise ce mot Liancourt. Pourquoi? Très simplement parce que quand ces rochers ont été découverts en 1849, pour les Occidentaux du moins, c'était un baleinier basé au Havre, le Liancourt, qui les avait décrits pour la première fois.
Donc rien à voir avec le duc de Liancourt en soi,
peut-être
si ce n'est le nom.
Peut-être que si, parce qu'il n'est pas du tout exclu que ce baleinier soit nommé lui-même en référence au duc de Liancourt, qui était un philanthrope célèbre à l'époque. Donc, et le duc de Liancourt, bien sûr, lui-même porte le nom d'un lieu. Donc vous voyez, il y a des allers-retours entre les personnes et les lieux qui sont assez amusants et on pourrait continuer encore la chaîne plus loin. Mais le fait pour nous et pour l'ensemble de la communauté occidentale de parler des rochers du Liancourt ou des équivalents en traduisant rochers dans toutes les langues diverses et variées, c'est aussi une façon de ne pas prendre parti entre les trois pays, puisque les deux Corées sont d'accord entre elles sur ce point, qui se disputent la souveraineté sur ces îles.
Alors voilà pour ces 19 hectares perdus entre la Corée et le Japon, auquel le nom de Liancourt reste attaché, peut-être même malgré lui, enfin certainement malgré lui d'ailleurs.
Peut-être.
Il n'avait sans doute pas prospecté cette région du monde. Alors comment faites-vous pour la mer de l'Est ou la mer du Japon du coup, puisque vous n'avez pas d'échappatoire là?
Alors, si, on trouve toujours une échappatoire, vous savez. Et en l'espèce, l'échappatoire, c'est l'Organisation hydrographique internationale. Il se trouve que le prince de Monaco, à la fin du 19e siècle, était un océanologue passionné. Il a créé une organisation hydrographique internationale à laquelle tous les pays riverains d'océan ou de mer ont adhéré. Et donc, c'est cette organisation qui dénomme les espaces maritimes. Alors, les langues officielles de l'OHI sont le français et l'anglais. Donc les choses sont relativement simples pour nous, sauf que souvent elles travaillent en anglais. Et dans la dernière liste qui a été publiée, c'est la CNT, c'est la Commission française, qui a produit la traduction française des noms établis en anglais, qui sont maintenant sur le site de l'OHI. Cela étant, dans cette traduction française et dans cette liste initiale, la mer du Japon n'est pas nommée, parce que justement c'est un problème, et que l'OHI attend de savoir ce que les pays riverains décideront, puisque c'est une des règles de l'OHI, que ce sont les pays riverains d'une même mer à se mettre d'accord sur l'appellation.
Mais que font les diplomates alors?
Les diplomates sont très prudents.
Quel Orsay, que doit-il faire?
Ils sont très prudents. Ah oui, alors quand ils ont à en parler, vous voulez dire. D'abord, il y a des périphrases. La diplomatie est une école de périphrases. Et donc, il faut essayer de ne pas avoir à la nommer. Et quand on a à la nommer, eh bien, on fait ce qu'on peut. Alors nous, notre position, quand même, soyons précis, nous ne sommes pas complètement l'arme au pied. Nous avons pris position sur un plan historique et d'usage, qui est que l'usage en France, c'est de dire la mer du Japon. personne ne dit la mer de l'Est, et quand quelqu'un entend la mer de l'Est, il ne voit pas de quelle mer on parle. Descendez dans la rue, dans le Quai Conti, les touristes, tant français qu'étrangers qui passeront là, ne sauront pas de quelle mer de l'Est on parle. Donc, alors que la mer du Japon, bah, on voit à peu près quand même où ça se trouve, et puis il suffit de connaître un peu mieux le pays, la région, pour voir exactement où c'est.
Donc en dernier recours, ça reste l'usage de toute
façon. Ah, toujours. Alors ça, c'est vraiment le grand maître, notre grand maître à tous. C'est vraiment l'usage qui compte, oui. Mais cet usage, on peut l'apprécier de différentes façons. Il y a la fréquence d'un nom. Je vais prendre un autre exemple, Yekaterinbourg, en Russie. C'est une ville qui est évidemment connue dans la culture française depuis très longtemps, qui est pratiquée, et donc on trouve des citations innombrables de Yekaterinbourg dans la littérature française. Mais on a fait un début de recensement des formes graphiques dans lesquelles sont employées Yekaterinbourg, et on a trouvé plus de 60. Et parmi ces plus de 60, il n'y en a aucune qui dépasse 5% des occurrences trouvées. Donc on peut dire dans ce cas-là que la fréquence du nom n'apporte absolument rien pour décider. Voilà. Alors il y a d'autres...
Donc, l'usage là n'est pas parlant, il y a une telle hésitation que...
C'est-à-dire qu'il y a d'autres notions d'usage. Il y a aussi ensuite, quand on est face à ce genre d'impasse, effectivement il faut trouver d'autres façons de respecter l'usage. Une autre façon, c'est de regarder quels sont, pour des noms de même type... Quelles sont les règles qui s'appliquent ? Essayer d'appliquer les mêmes règles à ce nom-là. Donc, en l'espèce, Yekaterinbourg est un nom qui s'écrit en cyrillique. Donc, on va chercher comment les noms cyrilliques sont transcrits en alphabet latin. Et là, en l'espèce, ça donne la solution.
Alors, donc, on a IE, qu'est-ce comment ?
IE, K-A-T-E-R-I-N, B-O-U-R-G.
Bien B-O-U-R-G.
B-O-U-R-G, comme un bourg, voilà. Mais ce n'est pas un bourg normand.
Est-ce que Johannesburg, en Afrique du Sud, vous gardez le B-O-U-R-G ?
Oui. Oui, alors ça, c'est une question d'usage, effectivement. Là, pour le coup, c'est vraiment l'usage. Le nom a été suffisamment employé en français sous cette unique forme. Et là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de variations pour qu'on puisse dire que ça s'est imposé comme ça.
Les Français sont râleurs, tricheurs, corrigent leurs interlocuteurs et résistent à la mondialisation. C'est ainsi que Christophe Campos nous livre les stéréotypes des Français du point de vue des Canadiens et Québécois. Une émission éclairage qui ne manque pas de caractère, à télécharger librement sur Canal Academy.
Alors, il y a bien sûr quantité de noms, on ne peut pas tous les voir par le menu, Pierre Jaillard, mais peut-être certains qui ont défrayé l'actualité, en particulier, évidemment, à la faveur des JO de Pékin. Là, vous avez eu du travail, non, à ce moment-là ?
Oui, alors, par chance, nous avions un peu anticipé.
Est-ce qu'il a vraiment fallu trancher à ce moment-là ?
Ah oui, ça n'a pas été tout à fait simple, et notamment pour diffuser l'information. Pour une raison très simple, c'est que vous parliez des règles spécifiques qui s'imposent à l'ONU. À l'ONU, il est deux règles que chaque pays dépose dans les six langues officielles de l'ONU, dépose l'appellation dans laquelle il souhaite être appelé lui-même, pays et aussi les principales villes. Et donc pour Pékin, la Chine a déposé dans chacune des six langues officielles, ou en tout cas dans chacune des langues officielles à l'alphabet latin, a déposé la romanisation dite pinyin qui a été adoptée par la Chine pour écrire en alphabet latin sa propre langue. Et dans cette romanisation, ça donne quelque chose qui ressemble à Beijing, B-E-I-J-I-N-G, bon, qui n'est pas très prononçable, mais qui surtout ne correspond même pas, si on le prononce à la française, Beijing, comme j'ai essayé de le faire, en essayant même de donner un minimum d'accent, on est quand même encore assez loin de la façon chinoise de le prononcer. Donc, en faire une règle qui s'impose à l'usage français est réellement absurde. Il n'y a pas de réalité derrière, alors qu'à l'inverse, Pékin est parfaitement répandu depuis très longtemps. En fait, d'ailleurs, pas forcément depuis si longtemps que ça. Ça n'est pas Marco Polo qui a importé Pékin. C'est pas depuis les voyages de Marco Polo qu'on utilise ce nom. C'est plutôt les missions jésuites au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que Pékin s'est formé, avec d'ailleurs des orthographes différents, mais aujourd'hui il est fixé P-E accent aigu K-I-N. On pourrait imaginer PE de Cayenne, hein, mais bon, c'est fixé comme ça. Donc on avait vu les choses venir évidemment d'assez loin, et on a, dès décembre 2007, donc 6 mois avant, annoncé qu'il ne fallait absolument pas s'interdire d'écrire ou de dire Pékin pour parler des Jeux Olympiques.
Et pourquoi la Chine a-t-elle déposé ce nom, Beijing, qui correspond à l'appellation anglaise ?
Alors, non, c'est plutôt l'inverse. C'est que les Anglais, eux, ont une vision de la toponymie qui est assez différente.
Plus proche de la langue locale.
Plus proche de la langue locale parce que dans une perspective beaucoup plus de normalisation que de respect de la diversité culturelle. Alors que pour nous, il s'agit essentiellement d'une question linguistique dans laquelle ce qui compte, c'est la langue qui est comprise à la fois par le locuteur et par l'auditeur ou par l'écrivain et le lecteur. Et derrière, le respect de la diversité et du génie propre d'une langue. Alors et là, en l'espèce, c'est pour ça que je disais que le nom chinois ne correspond pas à la façon de prononcer en chinois, parce que si ça avait été le cas, le respect de la diversité aurait pu nous faire dire qu'il vaut mieux dire une Beijing, puisque c'est plus proche de la prononciation locale. Mais en l'espèce, ce n'est pas le cas. Donc qu'au moins on respecte notre diversité à nous, français, en parlant français.
Ça veut dire qu'il y a deux visions du monde quand même qui s'affrontent à travers la conception anglaise et la conception française, qui sont différentes.
Oui, oui, il y a un peu de vision, en tout cas, de la nomination du monde, oui, une dénomination du monde.
Donc absolument. Du rapport à la réalité.
Oui, c'est ça, absolument.
Alors, est-ce qu'on peut faire un point, puisqu'il y a d'autres noms comme ça, un petit peu truculents, si je puis dire, qui prêtent à débat. Il y a la Birmanie.
Oui.
Et le Myanmar. Myanmar déjà ou Myanmar ? Il y a un article.
Écoutez, alors là, comme nous ne reconnaissons pas Myanmar, la question ne se passe pas pour nous. Mais effectivement, il y a d'autres cas comme cela. La Biélorussie, quelques autres comme ça.
Bélarus, Biélorussie. Voilà. On le verra juste après.
Ah bon, alors.
Voilà.
Alors
commençons par Myanmar et Birmanie, si vous voulez.
D'accord. Alors, la Birmanie, pour nous, c'est Birmanie. Hein, oui. Soyons bien clairs.
Sans ambiguïté.
Sans ambiguïté. La Birmanie porte un nom qui, en français, vient de la même racine que Myanmar. Simplement, elle a été déformée à deux reprises. D'une part, en passant par l'anglais, où ça donne Burma, ou quelque chose qui ressemble à ça, mais ça s'écrit Burma, excusez-moi de ne pas être un très bon anglophone. Et de Burma, c'est passé en français sous le terme de Birmanie. Bon. Que le pays concerné revienne à la forme originelle du nom plutôt que de garder une re-birmanisation d'un nom français passé par l'anglais, ça je le comprends très bien. Honnêtement, c'est même, je pense que nous ferions de même si nous étions dans le même cas. Mais de là à imposer ce nom aux autres locuteurs qui parlent de la Birmanie, c'est là que nous disons non. Il y a le respect de la diversité, c'est aussi ne pas dévaloriser notre propre culture et le fait que dans notre histoire de langue, ce pays est passé, enfin la connaissance de ce pays et sa dénomination sont passées par l'anglais, a été façonnée par le français.
Il y a une histoire, c'est porté par
une histoire,
tout simplement.
Il a une histoire par lui-même et il a aussi une histoire de langue.
Le point commun, Pierre Jaillard, en fait, entre Myanmar, ou plutôt la Birmanie, Pékin, Beijing et Bélarus, Biélorussie, le point commun, c'est la même chose, c'est la déposition, c'est le dépôt de l'appellation auprès de l'ONU.
Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Alors ça, c'est une règle diplomatique. Hein. Moi, je ne jette pas du
elle
tout
est bonne en
la
soi,
pierre à
ou
l'ONU.
Elle prête chaque fois à confusion, à conflit.
On voit une tendance quand même, une tendance à de plus en plus de dépôts de noms qui sont très loin de la réalité linguistique du pays en question. Et honnêtement, je doute fort que ni les Birmans ni les Biélorusses aient une meilleure connaissance de la langue française que nous. Donc je ne reproche rien à personne, mais enfin, et je comprends très bien que l'ONU, pour éviter les conflits sur des questions qui sont subalternes quand même, il faut bien le reconnaître, accepte que les choses se fassent comme ça. Par parenthèse, en sens inverse, je trouve tout aussi curieux que la Côte d'Ivoire ait obtenu de se faire appeler en anglais Côte d'Ivoire et non plus Ivory Coast. Il y avait probablement derrière aussi le fait de gagner quelques rangs dans l'ordre alphabétique, puisque vous savez que l'ordre alphabétique à l'ONU est fixé sur la liste anglaise. Bon. Donc on passe du I au C, c'est très, très intéressant.
C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est passée de l'appellation francophone à l'appellation anglophone.
Elle a fait accepter le nom francophone, y compris dans la langue anglaise.
Ce qui est un tour de force quand même, non ?
Tel que sont les règles à l'ONU, c'est de la suite logique. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand l'ONU a fixé ses règles, il avait prévu les détournements auxquels ça pourrait conduire ? Ça, je n'en sais rien. Et est-ce qu'aujourd'hui, la question d'un assouplissement de cette règle ne se poserait pas ? Ça, c'est une question que, personnellement, j'aurais envie de poser. Mais
donc là, c'est l'inverse de Pékin, en fait, pour la Côte d'Ivoire.
C'est la même chose, sauf que c'est un pays francophone.
C'est un pays francophone qui arrive à imposer un nom français Oui. Dans une liste anglaise.
Voilà. Mais alors, on a d'autres exemples. Le Salvador, par exemple. Le Salvador a trouvé qu'il fallait qu'en français, on l'appelle El Salvador. Donc, on garde l'article sans le traduire. Donc, on revient sur la question du Puntland. Est-ce que le land doit être gardé ou traduit ? Et pour nous, l'usage vraiment universel, c'est de traduire la partie générique du nom. Et donc, le Salvador, en plus, si on garde El Salvador, est-ce qu'il faut dire le El Salvador ? Enfin, ça frise le ridicule. Là. Donc, la France a tenu bon, en tout cas, pour ce qui est de la France.
Alors, Myanmar renvoie une identité un peu mythique chez les Birmans, qui s'explique donc par des raisons politiques internes. Est-ce que pour Biélarus, il y a une explication du même ordre ?
Alors, vous avez raison, l'explication est différente, ou plutôt la motivation de la revendication est différente. Pour la Biélorussie, ce qui est dit aujourd'hui par les autorités biélorusses, et nous avons eu des échanges très nombreux avec l'ancien ambassadeur de Biélorussie à Paris sur cette question, c'est qu'ils ont l'impression que la racine russe, Russie, de Biélorussie, porte assimilation de la Biélorussie avec la Russie. Ce qui, effectivement, sur le plan politique, ne serait pas acceptable. Mais honnêtement, je ne crois pas que qu'on puisse vraiment plaider ça. Et d'ailleurs, dans Bélarus, le terme russe veut aussi dire Russie. Ça veut dire Russie blanche. Alors là, c'est d'ailleurs un cas intéressant aussi de traduction du générique. La forêt noire, on l'a traduit intégralement. Schwarzwald, forêt noire. La Biélorussie, Russie blanche, on l'a fait autrefois. Avant l'Union soviétique, on parlait de la Russie blanche. Et puis, bon, est arrivée la révolution de 1917. La politique des nationalités de Staline, 1923, on crée des entités nationales au sein de l'URSS et la Biélorussie réapparaît sous ce terme de Biélarus. En français, on le traduit Biélorussie. On ne revient pas à une traduction comme la Russie blanche, mais on revient à une francisation avec une terminaison de SIE qui est la même que celle qu'on a affectée très logiquement à la Russie. Mais c'est bien le nom local qui est à la base du nom français. Et revenir à la forme locale, c'est quelque chose qui est quand même différent.
Mais alors en 91, je crois, c'est donc après évidemment les changements géopolitiques, la Biélorussie a voulu que ce nom soit changé.
Oui.
Sans grand succès.
C'est pas tout à fait aussi clair que ça, mais enfin bon, le Parlement biélorusse en effet a adopté une résolution qui allait dans ce sens-là. Sans grand succès, si à l'ONU ça s'est fait, voilà, suivant la règle traditionnelle, avec d'ailleurs.
Mais dans le monde francophone.
Mais dans le monde francophone, il y a deux tendances là aussi. Il y a la tendance québécoise. Vous parliez de deux visions du monde, mais c'est vrai que le Québec fait quand même partie du Canada et accepte cette vision du monde américaine de ce point de vue-là, et donc a accepté de dire le Bélarus. En France, non. Il y a un usage qui est établi. Il n'y a pas d'ailleurs vraiment de changement de nom. En réalité, la décision de 91 n'est pas si un changement de nom. C'est la revalorisation du nom local, ce qui est quand même assez différent. Mais donc, nous continuons à dire la Biélorussie.
Sans que cela fasse l'objet de tensions diplomatiques particulières.
Nous avons tout de même été entrepris avec beaucoup d'insistance par l'ancien ambassadeur de Biélorussie à Paris, qui a d'ailleurs assisté à une séance de la commission pour plaider sa cause avec une premier secrétaire. Donc, ça a quand même été assez précis. C'est le Quai d'Orsay qui les avait envoyés vers nous. Donc les choses étaient parfaitement en ligne sur le plan diplomatique, mais nous avons tous été d'accord pour ne pas changer.
Pourquoi Bélarus en soi, ils auraient pu trouver aussi un autre nom peut-être, changer carrément ou
c'est vrai
ça s'explique comment ?
Alors, il est vrai aussi que si effectivement ils avaient complètement changé de nom, là nous aurions été dans une situation différente et nous aurions pu suivre davantage. Hein. On l'a fait ailleurs, quand la Côte de l'Or en Afrique devient le Ghana, c'est vraiment un changement de nom et donc on change le nom. Mais pour la Biélorussie, vous remarquerez d'ailleurs une chose amusante, c'est qu'en russe comme en biélorusse, Bélarus est féminin. On le traduit avec l'article masculin, ce qui est très curieux.
Alors, on devrait dire la Bélarus.
On devrait dire la Bélarus. Et l'ambassadeur, quand on lui a fait remarquer, en est convenu, nous a expliqué qu'il avait pensé que ça venait mieux en français. Je ne sais pas s'il était là à l'époque de la décision, enfin sûrement pas à Paris, mais s'il était une partie prenante de la décision. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est effectivement ça qui est couramment utilisé au Québec.
On change un peu de latitude et de longitude, Pierre Jaillard, dont je rappelle que vous êtes président de la Commission nationale de toponymie. En Inde, on peut observer que le nom de Bombay fait l'objet aussi d'un Si on regarde par exemple les bâtonnets, vous rendez un terminal d'Air France, les avions partent pour Mumbai, ils ne partent pas pour Bombay.
Oui, alors il y a quelques autres cas comme ça, comme Madras, pour laquelle c'est Chennai qui a l'air de s'imposer.
De l'autre côté de l'Inde.
Calcutta, voilà. Calcutta, c'est la forme anglaise aussi.
Kolkata.
Avec des cas. Là, en plus, ce sont des cas un peu compliqué. Pondichéry a eu la même velléité à un moment. Mais ce sont des cas un peu compliqués par le fait que l'Inde a de nombreuses langues officielles et que l'anglais est l'une d'elles. Et donc, lorsque des compagnies aériennes découvrent qu'il y a un nom anglais, qu'est-ce qu'il est, ils ont tendance à s'aligner dessus. Il faut reconnaître que pour des raisons de déplacement et de nécessité de compréhension internationale, qu'une langue unique s'impose dans l'aviation me paraît pas choquant. Je regrette évidemment que ce soit l'anglais, mais dans le principe, ça ne me paraît pas choquant. En revanche, que dans un texte de littérature ou de presse française, on parle de Mumbai ou de Chennai, c'est d'abord une bonne façon de ne pas être compris, parce qu'aujourd'hui encore, en tout cas, à chaque fois que ce genre de nom est employé, on met à côté, on explique à côté
que c'est
appelé Madras et Bombay. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? En tout cas, nous ne le pensons pas. Nous croyons qu'un usage s'est établi sur les formes françaises, et dans la liste que nous avons publiée, qu'on peut trouver en ligne, www.toponymie.gouv.fr d'ailleurs, sur cette liste-là, nous avons mis les noms français de toutes ces villes.
www.toponymie.gouv.fr. Est-ce que, Pierre Jaillard, on peut faire un dernier point sur ce qui va occuper vos délibérations prochainement? Est-ce que vous avez des dossiers, des noms qui sont sujettes à caution?
Alors, actuellement, il n'y a pas de nom en particulier. Je voudrais peut-être signaler un cas qui a pu être intéressant, puisqu'on est sur une radio, qui est le Sinaï. Le Sinaï est un cas tout à fait intéressant, puisque nous avons été saisis d'ailleurs à l'origine par Radio France, qui avait remarqué que ces journalistes faisaient quasiment agresser, en tout cas qu'il y avait des attroupements pas toujours sympathiques autour d'eux quand ils faisaient des sujets dans les rues du Caire en parlant du Sinaï. Et de fait, la prononciation Sinaï est une prononciation qui est issue de l'hébreu. Les Arabes disent Sina. Et pour nous, Français, nous recommandons donc vivement de dire Sinaï, qui est une prononciation typiquement française et qui évite de prendre parti entre les deux origines linguistiques.
Donc Sinaï, c'est déjà un choix en fait que vous faites?
Sinaï, c'est déjà un choix, et comme c'est un choix qui est à certains qui en plus aujourd'hui est obsolète, il vaut mieux ne pas le faire.
On avait commencé par les territoires palestiniens justement, Pierre Jaillard. On revient d'une certaine façon à cette région qui représente un peu le centre du monde. Merci d'avoir été avec nous pour parler des toponymes. Je rappelle justement l'adresse que vous avez donnée si vous voulez en savoir plus, www.toponymie.gouv.fr. Pierre Jaillard, président de la Commission nationale de toponymie, était notre invité. Et c'est un sujet à la fois passionnant et passionnel que vous avez su aussi dépassionner avec votre regard de spécialiste.
Merci.
Merci beaucoup.